Aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble dans l'Évangile selon Jean. Nous continuons notre étude dans cet Évangile et nous sommes toujours dans le premier chapitre. Et aujourd'hui, mon texte se trouve à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Et le sujet, c'est Christ, la véritable lumière. Cela est tiré du texte ici où nous lisons dans Jean 1, 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors voici le texte que nous avons à étudier ensemble aujourd'hui. Lorsque c'est écrit, cette lumière était la véritable lumière, on doit alors comprendre qu'il y a alors une fausse lumière qui brille. Et je dois dire que dans la religion, surtout une religion qui met l'accent sur les œuvres de l'homme ou bien même le libre arbitre de l'homme, supposant que c'est l'homme qui est le tout-puissant en décidant son salut ou non, alors c'est une fausse lumière. Il y a une lumière naturelle qui est déchue, qui éclaire le cœur, la pensée de chaque être humain, mais selon ce que nous lisons ici, pour connaître Dieu, il faut la véritable lumière. Nous devons vraiment faire attention à chaque mot qui est écrit ici dans la Bible, parce que chaque mot est inspiré de Dieu. Souvent, nous lisons trop rapidement les Écritures, et alors nous ratons le sens de ces écritures, même en ignorant un seul mot. Donc ici, c'est important de saisir le sens, cette lumière, en parlant de Jésus-Christ, comme nous avons déjà vu dans le contexte, était la véritable lumière. Et la raison pour laquelle l'Esprit a dirigé Jean, l'apôtre Jean, à écrire cela, c'est pour insister sur le fait que Jésus-Christ, cet homme qui a marché sur cette terre, la parole de Dieu n'est autre que Dieu, parce que Dieu est lumière. Dans sa première épître que Jean a écrite, dans le verset 1 et le verset ou plutôt le chapitre 1, le verset 5. Jean a dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, parce qu'il a marché avec Christ, et lorsque Christ était sur la terre, le Seigneur Jésus l'avait appelé à lui, et donc il dit, la nouvelle, c'est précisé, le message que nous avons appris, ou bien la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, dire ici que Christ est la véritable lumière, c'est dire que Christ est Dieu. Et tout ce qui est en Dieu est en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas faire de distinction entre Dieu et le Seigneur Jésus. Les deux sont un. Et Christ lui-même, à travers son ministère, insistait là-dessus. Alors, il y a plusieurs manières de comprendre ce mot, qu'il est la lumière, parce que la lumière éclaire. Il faut dire aussi que la lumière donne la connaissance. La lumière est pure. Il y a plusieurs façons d'aborder ce sujet. Et la lumière, comme nous avons vu au sujet de Dieu, n'a point de ténèbres. Il n'y a point en lui de ténèbres. Les ténèbres peuvent symboliser ce qui est contraire à la vérité. Les ténèbres aussi peuvent communiquer l'idée d'être sans péché, pur. Donc tout cela s'applique au Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi lui-même, il a dit à ses disciples que nul ne peut venir au Père que par lui. Alors, c'est important de comprendre la signification de ce sujet, Christ, qui est la véritable lumière. Alors, plusieurs points à souligner dans ce passage, et comme d'habitude, nous étudions verset par verset, donc commençons par le verset 9 de l'Évangile selon Jean, chapitre 1. La lumière, ou bien la véritable lumière, n'est autre que Jésus-Christ venu dans le monde. Tout cela est décrit ici dans le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde. Voyez, lorsque nous parlons de notre naissance dans le monde en tant qu'être humain, ce n'est pas un langage que nous utilisons en disant « oui, le bébé est venu dans le monde ». Nous disons que le bébé est né. Mais ici, c'est écrit d'une manière à nous montrer que celui qui est venu dans le monde, ce n'est pas en venant dans le monde qui était le début de son existence. Quand c'est écrit « cette lumière était la véritable lumière », il faut remonter jusqu'au verset 1 de ce chapitre et comprendre que qui dit la parole de Dieu dit la lumière. Parce que verset 1 dit « au commencement était la parole » et là, quel que soit le commencement, il faut aller jusqu'à l'éternité où quelqu'un place le commencement. Dans l'éternité était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est pour dire que il y a dans la divinité biblique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons dans la Bible. Mais celui qui s'appelle le Fils de Dieu, qui est devenu homme, il n'est pas autre que Dieu dans la chair. Nous allons voir ça dans le verset 14. Et la parole a été faite chair. La même parole mentionnée dans le verset 1 est devenue chair. Et c'est ce que nous voyons témoigner ici dans le verset 9, cette lumière. Parce que quand on contemple la lumière, on ne sait pas d'où ça vient, ni on ne sait pas exactement son étendue, mais nous savons que la lumière brille. C'est une manière de symboliser aussi l'aspect éternel de Dieu qui n'est ni commencement, qui n'a ni commencement ni fin. La lumière, c'est diffusé. On ne peut pas saisir cette lumière avec la main pour diriger la lumière. On voit la lumière si Dieu nous donne des yeux pour voir, mais nous ne pouvons pas saisir cette lumière ou bien comprendre ou contenir cette lumière. C'est infini, comme Dieu lui-même. Alors, verset 9 est une manière de nous montrer que Christ est le Dieu homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde. Il est venu dans le monde, mais il était avant le monde. En venant dans le monde n'était pas son commencement, puisqu'il est la parole qui est depuis le commencement. Quel que soit le commencement, il y est. Et cela est important pour nous de saisir. Lorsque Christ est venu dans le monde, il n'a pas cessé d'être Dieu. Il n'a pas mis de côté sa divinité pour devenir un homme, mais plutôt en tant que Dieu, il a pris sur lui la chair des humains, puisqu'il devait venir et donner sa vie en rançon pour ce que le Père lui a donné. Donc, pour représenter ces hommes, il devait prendre chair. Dieu ne peut pas mourir. C'est seulement un être humain en représentant d'autres êtres humains qui pouvaient verser son sang. Alors, tout cela a été nécessaire pour Christ d'être le substitut des pécheurs. Ésaïe chapitre 9 et le verset 5 a prophétisé cet événement de celui qui est la parole et celui qui est la lumière venant dans le monde. C'est écrit « Car un enfant nous est né, mais notez bien, un fils nous est donné. » Un enfant nous est né. Ça, c'est le langage qu'on utilise d'un être humain. Un bébé né dans le monde. Donc, il est sorti du sein de sa mère comme tout autre être humain. Mais il faut comprendre, c'est écrit, un fils nous est donné. Cela veut dire le fils de Dieu. Il n'est pas devenu le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu et cela depuis l'éternité. Mais en tant qu'homme, il est né dans ce monde. Alors, comme Dieu est lumière, voilà ce que Jean dit dans Jean 1 et le verset 9, ainsi que son fils. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. » Cela, surtout dans Jean chapitre 8 et le verset 12, qui est encore dans cet évangile, selon Jean, c'est écrit dans Jean 8 et le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Cela veut dire, Christ est venu pour arracher des pécheurs de leurs ténèbres. Et ici, ça représente deux choses. D'abord, l'aveuglement, parce que celui qui est aveugle est dans les ténèbres, mais aussi de la condamnation. Dans la Bible, lorsque les ténèbres sont décrites comme la condamnation éternelle, où seront maintenant ceux qui meurent dans leur péché, pour qui Christ n'est pas leur rançon, donc pour l'éternité, ils vont vivent dans les ténèbres, éloignés de la lumière qui est Dieu. Mais si, c'est écrit, je suis la lumière du monde. Cela veut dire, si quelqu'un, si un pécheur doit connaître Dieu, ça doit être à travers le Seigneur Jésus. Et celui qui le suit pour suivre le Seigneur, il faut qu'il nous donne d'abord la vie. Un cadavre ne peut pas marcher. Or, nous sommes nés dans ce monde, morts dans nos péchés. Donc, celui qui est la lumière, comme nous avons vu la dernière fois, est aussi la vie. Et c'est par son esprit qui donne la vie aux pécheurs pour qu'ils vivent et pour qu'ils voient Christ comme la lumière et qu'ils le suivent. Et en le suivant, de marcher non plus dans les ténèbres, de l'aveuglement ou bien de l'ignorance ou bien dans des vaines conduites que, dans lesquelles les hommes vivent dans leur religion, leur tradition. Mais il aura la lumière de la vie. Ouais, la vie et la lumière sont liées. Qui a la lumière en Christ a la vie, et qui a la vie a cette lumière en Christ. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Jean insiste là-dessus, que cette lumière est la véritable lumière qui est venue dans le monde. Dans Hébreux chapitre 1, et c'est pourquoi j'aime comparer les Écritures avec les Écritures. Nous n'avons pas besoin des commentaires d'hommes. Il nous faut le commentaire de Dieu qui est déjà dans les Écritures. Alors j'encourage chacun de trouver une concordance ou bien même sur l'Internet. Maintenant, c'est très facile parce qu'il y a beaucoup de concordances déjà disponibles où on peut comparer les Écritures avec les Écritures. Je dis souvent que les Écritures ont beaucoup de lumière à jeter sur les commentaires des hommes, à briller sur les commentaires des hommes. On doit soumettre tout commentaire de l'homme à la lumière de la parole de Dieu. Alors, dans Hébreux 1 et le verset 1 au verset 3, nous voyons une explication de cette véritable lumière qui est venue dans le monde. C'est écrit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps. » Alors, quand les gens posent la question « Est-ce que nous sommes dans les derniers temps ?» La réponse est oui. Les derniers temps ont débuté avec la première venue du Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu la première fois pour donner sa vie en rançon pour les pécheurs que Dieu le Père lui a donné depuis l'éternité. C'est là qu'ont commencé les derniers temps. Effectivement, maintenant, comme l'apôtre Jean dit dans son épître, sa première épître, il dit « Nous sommes effectivement dans la dernière heure. » Il n'y a aucune prophétie qui reste, qui demeure encore à être accompli, si ce n'est pour Dieu, par son esprit, d'attirer à lui-même la dernière brebis pour qui Christ est mort. Une fois que cette brebis est appelée à Christ par la prédication de l'Évangile, donc il n'y a aucune raison pour ce monde d'exister encore. Et Christ doit revenir pour juger le monde, détruire ce monde et appeler auprès de lui chacun pour qui il a payé la dette. Il a dit dans Jean chapitre 6 que de tous ceux que le Père lui a donné, il ne doit rien perdre. Telle est la puissance et la souveraineté de Christ. Donc, Dieu, dans ces derniers temps, verset 2, nous a parlé par le Fils. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas parlé par le Fils à travers les prophètes, parce que les prophètes parlaient de lui. C'était leur sujet dans leur prophétie, le Christ qui devait venir. Mais quand c'est écrit ici, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il parle maintenant de la manifestation de son Fils dans le monde et dans la chair. Il est venu, cette véritable lumière est venue dans le monde et a communiqué comme l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont prophétisé avant lui. Il a communiqué qu'il est effectivement ce Messie. Il est effectivement celui dont ils ont prophétisé. Alors, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Notez qu'il a établi héritier de toutes choses. Il a été établi héritier de toutes choses depuis l'éternité, parce qu'il est cette parole qui était avec Dieu et qui était Dieu. Donc, héritier de toutes choses, comment? C'est comme Christ a prié dans le jardin avant d'aller à la croix dans Jean 17, le verset 2. Il glorifiait le Père du fait que le Père lui a donné pouvoir sur toute chair, sur ceux qui croient, mais aussi sur ceux qui ne croient pas. Il est souverain. Mais de donner la vie éternelle à ceux que le Père lui a donné. C'est dans ce sens qu'il est l'héritier de toutes choses. Je sais, aux États-Unis, si vous avez une famille et vous avez des enfants, que vous mourrez, alors on partage les biens de celui du décédent, on partage ses biens à chaque enfant également. Mais dans d'autres sociétés, c'est le premier-né qui est l'héritier. Donc, c'est lui qui reçoit tous les biens de son père. Et ensuite, maintenant, c'est à l'héritier de distribuer ses biens comme il veut. Je crois que ça, c'est plus proche à ce que nous voyons ici au sujet du Seigneur Jésus. Il est le premier-né. Cela ne veut pas dire qu'il a été créé le premier, comme certains enseignent, mais non, il est le premier-né en autorité. Il est le premier-né en tant qu'héritier de toutes choses. Christ lui-même a dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement entre les mains de son Fils. Donc, étant l'héritier, ayant été établi l'héritier de toutes choses, ça signifie qu'il a le pouvoir sur tout être humain, sur toute créature. Il dirige toutes choses. C'est pourquoi nous pouvons avoir la confiance que quel que soit ce que nous contemplons dans le monde aujourd'hui, ce qui se passe et qui perturbe des hommes, puisqu'ils ne connaissent pas Christ, et donc ils sont perturbés par les événements, mais nous savons que rien ne se passe dans ce monde. Commençons même depuis la création, comme c'est écrit dans le verset 2, par lequel il a aussi créer le monde. Rien ne se passe si cela ne provient de la main du Seigneur Jésus. Il est présentement assis sur le trône de son Père. Il est venu, il a accompli la mission pour laquelle il est venu, c'était de racheter un peuple. C'est pas tout le monde, mais un peuple de toute nation, de toute race, de toute langue. Ce que la Bible appelle les élus, ce que Dieu lui-même a élu et a donné à son Fils. Il est venu afin d'accomplir le salut. Et puis, payant leur dette par sa mort, il est ressuscité, il est ascendu au ciel où il est assis maintenant à la droite de son Père. C'est une manière de parler, être à la droite de quelqu'un est une position d'honneur et d'autorité. Et c'est à lui alors que tout genou doit fléchir. Il est le Seigneur. Tout cela est décrit ici, dans cette épître aux Hébreux. C'était important, quand on dit Hébreux, c'était des Juifs. Voilà ce qui était un scandale pour les Juifs, le fait qu'ils attendaient un Messie. Mais non pas dans la personne de Jésus-Christ, Dieu dans la chair. Alors c'est pourquoi Jean a écrit afin que ceux-là soient convaincus de la véracité de la personne de Christ et qui il est. On ne peut pas dire croire en Jésus-Christ et ne pas croire dans sa personne, croire à sa divinité. Ceux qui ne croient pas à la divinité de Christ ne croient pas en Christ, quelle que soit leur profession. De minimiser l'importance de la personne et de la gloire de Christ en tant que Dieu, c'est d'ignorer qui il est et pourquoi il est venu. Right? Ici, dans le verset 3, se préciser davantage. Et qui étant, noté, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Voilà, Dieu est esprit. Il n'a pas d'autre image que son Fils. C'est pourquoi il a dit au début à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'ils ne devaient pas avoir une image quelconque qui était fabriquée à l'image de Dieu, parce que Dieu a décrété que cette image devait être dans la personne de Jésus-Christ. Si vous voulez connaître Dieu, ça doit être à travers le Seigneur Jésus. Et je dois dire, c'est pourquoi même aujourd'hui, nous n'avons pas d'image de Christ que nous mettons sur nos murs, comme les artistes aiment dessiner. Nous ne sommes pas de ceux qui prennent le cinéma et trouvent des acteurs pour aller jouer le rôle de Jésus, comme si c'est ça qui va convaincre des gens. Non, tout cela, c'est l'idolâtrie. Et je dis que quand je dis ça, souvent, ça choque certaines personnes, mais c'est la vérité, c'est l'idolâtrie. De prendre une image, et je dis souvent que si le Seigneur Jésus aurait voulu avoir une image de lui, il y avait des dessinateurs à son jour, des artistes qui pouvaient dessiner son portrait et puis passer ça de génération en génération pour nous aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce qu'il a laissé. Tout ce qu'il a laissé, c'est sa parole inspirée que nous sommes en train de lire, son esprit qui prend cette image de Christ révélée dans les Écritures et qui communique cela au cœur. Voilà ce qui est important. Il faut que cette lumière brille au cœur pour avoir la connaissance de Christ. C'est pas ce qu'on voit avec les yeux. La foi ne marche pas selon la vue des hommes. Alors tous ceux aujourd'hui qui ont de ces images et souvent dans leur milieu d'adoration sont des idolâtres. Pierre lui-même a dit dans son épître, dans 1 Pierre 1 et le verset 8, « Lui que vous aimez, notez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Voilà qui est Christ. C'est par la foi que nous le voyons. Il nous a laissé sa parole, son esprit. Et si on a besoin de quelques images de Christ, alors c'est à travers la table du Seigneur qui nous a donné le pain sans levain et la coupe. C'est des photos, des images très simples. Le pain sans levain représente son corps sans péché. C'était nécessaire qu'il ait un corps qui devait maintenant mourir, et la coupe, le vin, représente son sang versé. C'est tout. Nous ne devons pas aller au-delà. Mais lorsqu'il est venu, quand on parle du Seigneur Jésus, revenant dans Hébreux chapitre 1, le verset 3, c'est écrit qu'il était ou est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante. Voilà encore, il est la parole de Dieu, d'être souverain, d'être le premier-né, d'être l'héritier, ouais, tout cela s'applique. Par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors tout cela est compris revenant dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 1, le verset 1, que cette lumière, la véritable lumière, n'est autre que Jésus-Christ venu dans le monde. Mais deuxièmement, nous voyons que c'est écrit dans le verset 9 que cette lumière éclaire tout homme. Alors cela aussi est important de comprendre. Mais pour moi, quand je lis ça, je vois que aucun être humain n'est sans excuse. Je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il y a des gens dans certaines parties du monde qui vont jamais entendre l'évangile, alors quel sera leur sort? Leur sort, c'est que si Dieu ne leur donne pas les yeux pour connaître Christ, pour voir Christ, si Dieu ne leur envoie pas un messager pour communiquer Christ à eux, donc ils vont mourir dans la condamnation. Mais cela ne veut pas dire que Christ alors était absent, parce que même Paul, en écrivant aux Romains dans son épître aux Romains chapitre 1, il a démontré que même la création est une démonstration de la personne et de la puissance du Seigneur Jésus. Et peut-être on se demande alors, mais pourquoi tout le monde ne croit pas alors? Parce que tout le monde voit la création. Mais Paul lui-même donne la réponse. Dans Romains chapitre 1, il dit, dans le verset 22, se vantant d'être sage, parce que chaque homme maintenant dans son état déchu du péché, se vante d'être sage, mais c'est écrit, ils sont devenus fous. Et verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. Notez bien, en image au pluriel, Romains 1, 23. En image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Si les gens n'étaient pas aveugles déjà dans leur péché, ils pouvaient voir que cette création et même la gouvernance de ce monde provient du Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi les hommes sont sans excuse. Parce qu'au lieu de chercher à connaître qui est l'auteur et qui est le créateur, ils ont trouvé mieux de se donner eux-mêmes la gloire. Si je trouve quelque part une montre, par exemple, et j'apprécie la montre, mais je vais tout de suite demander, mais qui a fabriqué cette montre? Voyant la qualité, il me faut savoir qui est son créateur. Alors, en ce qui concerne les choses du monde, nous prenons le temps de chercher, connaître. Mais en ce qui concerne les choses spirituelles, l'homme ne sonne pas à chercher qui est à l'origine de tout cela. Parce que l'homme est aveugle et l'homme est orgueilleux et il préfère donner la gloire à d'autres que de donner la gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 9, Christ est décrit comme la véritable lumière qui éclaire tout homme. Il était dans le monde avant même qu'il n'est venu dans le monde. Il faut aller jusqu'à au début de la création, quand la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons déjà vu cela, que rien n'a été fait sans avoir été fait par cette personne, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu et qui est la lumière. Il faut dire à travers l'histoire aussi de l'Ancien Testament que Christ était prophétisé dans le tabernacle et dans tout ce qui se passait autour du temple et avec les sacrifices, les sacrificateurs. Voilà, la lumière brillait. J'ai trouvé intéressant que même dans les régions du monde les plus étendues. Il y a cette lumière qui brille. Quand je suis allé en Côte d'Ivoire pour la première fois, dans l'année 1980, et je me suis installé dans un petit village appelé Guéo. Et je suis allé là parce que j'imaginais que, voilà, dans la forêt, peut-être un petit village où les gens n'ont pas encore entendu parler de Jésus, de la Bible, le Seigneur Jésus. Alors, je me suis installé, on a trouvé une maison, et puis, bizarrement, le lendemain matin, j'entends une cloche et j'entends des gens en train de faire un genre d'incantation de ce qu'ils appelaient prière. Alors, je suis sorti pour regarder, voilà, des gens habillés en tout blanc. Et ils entraient dans une petite chapelle. Et celui qui les dirigeait s'appelait, il se donnait le titre de Pawaba. Et dans la langue que je ne comprenais pas très bien, mais j'ai entendu répéter le nom Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, un jour, je suis allé me présenter et demander à ce Pawaba la signification du mot Jésus-Christ. Et il parlait de Jésus-Christ. Mais, donc, voilà, dans un village retiré, il y avait déjà des gens qui avaient une semblance d'adoration, même mentionnant le nom de Jésus. Mais vous savez, son message, quand je poussais un peu pour savoir de quoi il s'agissait leur religion, ils me disaient non, que la parole de Dieu a annoncé qu'un certain homme est venu dans le monde, il est né là-bas dans un pays éloigné qu'on appelle Israël, et il allait partout en faisant le bien, mais hélas, les gens l'ont trahi et puis ils l'ont crucifié, il est mort. Autrement, il aurait dû même venir en Afrique et régler tous nos problèmes de la manière qu'il faisait des miracles où il était. Il aurait dû venir, mais hélas, les gens l'ont empêché. Voilà leur sens de la venue de Jésus. Ils avaient un certain sens, c'est-à-dire cette lumière brillait et éclairait, ça éclaire tout homme. Mais l'homme va toujours rester dans l'ignorance tant que Dieu ne lui ouvre les yeux. Ce petit groupe avait même une Bible en anglais, parce que ce Pawaba est venu de Nigeria, où c'était l'anglais, et ils emballaient cette Bible dans des linges et c'était blanc. Donc tout entouré, ils étaient en blanc, la Bible était emballée en blanc, ça représentait pour eux une certaine purité, mais ils ignoraient. C'est-à-dire quand j'écoutais, j'entendais, j'ai dit, mais donc ce Jésus-Christ dont vous parlez, il a raté dans sa mission alors. Parce que s'il est venu afin de sauver, mais il n'a pas pu accomplir sa mission parce que les gens l'ont tué alors. Et le Pawaba disait oui, que c'est à nous maintenant de lamenter. C'était leur façon d'adorer. Ils étaient en train de lamenter ce que les hommes ont fait à Jésus en le crucifiant, sans se rendre compte qu'ils étaient eux-mêmes rebelles et dignes de la même condamnation. Parce que je dois dire, si j'étais là ce jour-là, j'aurais crucifié le Seigneur Jésus aussi, parce que je suis de même nature pécheresse que ceux qui l'ont crucifié. Ils étaient mes représentants. Quand ils ont dit crucifiez-le, crucifiez-le, c'était à mon égard qu'ils ont crié cela. Mais si je suis aujourd'hui un pécheur pardonné et sauvé, c'est parce que Dieu n'a pas tenu compte de cette rébellion, mais m'a choisi en Jésus-Christ et a envoyé son Fils effectivement mourir à la place des pécheurs comme moi. Et c'est là qui est maintenant mon salut. Et avec le temps, c'est comme ça que nous pouvons connaître ceux pour qui Christ est mort. Ce n'est pas tout le monde. Comment Christ va mourir pour quelqu'un, un pécheur, et Dieu n'envoie pas alors l'évangile ou son esprit pour le délivrer des ténèbres? Ça n'a aucun sens. Donc, tous ceux que Dieu a ordonnés au salut croiront, parce que Dieu ne peut laisser même un de ses pécheurs aller en condamnation pour qui Christ est mort. Alors, cette parole, et même aujourd'hui, plus que jamais, cette parole luit dans le monde, la véritable lumière éclaire tout homme. La manière que la Bible est publiée aujourd'hui, non seulement en papier et encre, mais à travers l'Internet et dans les différentes langues, certainement la lumière éclaire tout homme. Ça a éclairé les Juifs. Ils avaient la loi, ils avaient les prophètes. Pourtant, ils n'ont pas su que celui qui est venu, le Seigneur Jésus, était effectivement le Messie. Ils l'ont crucifié. Et même aujourd'hui, dans leur aveuglement, les Juifs continuent à attendre un Messie à venir. Ouais. Alors, nul ne peut ignorer que cette véritable lumière est le Seigneur Jésus venu dans le monde et il éclaire tout homme. Chaque homme est sans excuse. Mais troisièmement, dans les versets 10 et 11 de Jean chapitre 1, dans son évangile, je dirais ceci, que la véritable lumière est celle que le monde n'a point connu et n'a point reçu. Telle est notre nature pécheresse, que quelle que soit la lumière, si quelqu'un est aveugle, donc il ne verra jamais la lumière. Je peux prendre un aveugle et le faire approcher tout près de la lumière, mais tant que cet aveugle ne reçoit des yeux pour voir, il ne peut apercevoir, il ne peut point connaître ou recevoir cette lumière. Alors Jean ici, dans les versets 10 et 11, est en train de décrire l'état de la dépravation totale de l'homme, que laissé à lui-même, l'homme ne verrait jamais la lumière. La preuve, c'est que lorsque Christ est venu dans le monde, il a marché parmi les siens, de la même manière que dans l'Ancien Testament, le tabernacle était là, au milieu du peuple. Mais il y a beaucoup qui ont péri dans le désert parce qu'ils n'avaient pas des yeux pour voir ou apprécier, comprendre que tout ce qui se passait dans ce tabernacle s'agissait du Seigneur Jésus. Toute leur cérémonie était sans la foi que Dieu seul donne dans Hébreux chapitre 4. Et le verset 1 et 2, nous lisons ça, l'auteur aux Hébreux dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Christ a dit, venez à moi et je vous donnerai le repos de Dieu. Le mot signifie le sabbat. Le sabbat de Dieu n'est pas un jour. Ce n'est même pas le dimanche. Il y en a qui disent, oui, mais notre sabbat, c'est le dimanche. Non, notre sabbat, si nous sommes à Christ, notre sabbat, c'est Christ. Mais d'autres n'entrent pas dans ce repos qui subsiste encore. Et il craint, c'est ce que Celui qui a écrit aux Hébreux dit, craignons donc, comme d'autres ont péri dans le désert, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car, notez bien, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Il n'y a qu'un seul évangile, il n'y a pas un évangile de l'Ancien Testament et un évangile du Nouveau. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Comment est-ce que quelqu'un trouve la foi? C'est l'Esprit qui donne. La foi, c'est le don de Dieu. Alors, c'est Dieu qui détermine qui croira et qui ne croira pas. Ce n'est pas la décision de l'homme. Il faut savoir que les pratiques de nos jours, en invitant les gens à venir devant et à faire une prière, tout cela n'est pas dans la Bible. C'était un homme dans les années 1850 qui se nommait Charles Finet. Beaucoup l'apprécient, mais c'était un faux prophète parce qu'il insistait sur le fait que Dieu, c'est vrai, sauve, mais c'est en coopération avec l'homme. Donc, l'homme doit décider. Et c'est l'homme qui doit maintenant venir et rester auprès de Dieu et supplier Dieu jusqu'à ce que Dieu le sauve. Donc, le salut est placé dans les mains de l'homme. Mais nous savons que tant que Dieu ne donne la foi pour connaître Christ à un pécheur, ce pécheur n'apercevra jamais le Seigneur Jésus, quoi qu'il était devant eux. Et c'est ça le sens que Jean dit là dans les versets 10 et 11, que la lumière, la véritable lumière que le monde n'a point connue, ne pouvait pas connaître, n'a point reçue, étant aveugle. Je sais qu'il y en a qui s'opposent, ils n'aiment pas la doctrine de la souveraineté de Dieu. Ils me disent toujours que non, mais c'est Dieu, s'il est juste, il devait laisser chaque homme choisir. Mais je dois dire, voilà les conséquences. Si Dieu laisse les hommes à leur choix, ils ne choisiront jamais de venir à Christ parce qu'ils sont aveugles. Ils ne verront jamais la lumière tant que Dieu lui-même ne leur donne les yeux pour voir. C'est pourquoi Christ a dit à Nicodème, lorsqu'il a dit, il faut naître de nouveau. Cela signifie naître d'en haut, dans l'original, pour apercevoir le royaume de Dieu. Et Christ a dit dans Jean 3 et le verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, naître d'eau, l'eau est symbole de l'esprit dans les Écritures. Donc, une autre manière de lire ça, c'est si un homme ne naît d'eau, même d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans le verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut que Dieu donne ses yeux pour voir, même en lisant la Bible. Beaucoup lisent la Bible sans voir celui qui représente le royaume de Dieu, qui est Christ, et sa mort, et ce que sa mort a accompli. Et si vous ne croyez pas que cela dépend de Dieu, Christ a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, verset 8, Jean 3, 8, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ça, ce n'est pas tous les hommes. Alors, c'est pour signifier que l'homme laissé à lui-même ne pourrait jamais venir à Christ. C'est pourquoi nous ne supplions pas les hommes de faire quoi que ce soit, mais nous prions à Dieu. Lorsque je prêche même ce message qui sera posté à l'Internet, et c'est Dieu qui va diriger qui entend et qui n'entend pas. Il y a une différence entre écouter et entendre. Beaucoup écoutent, la lumière brille, éclaire tout le temps, mais Ceux qui entendent sont ceux à qui Dieu, dans sa grâce, donne les oreilles pour entendre. Et puis, quatrièmement, nous voyons cela dans les versets 12 et 13, que la véritable lumière est révélée dans les véritables enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. C'est écrit dans le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, il y en a qui ne vont jamais recevoir Christ, jamais le connaître. Laissés à leur sens réprouvé, ils vont continuer dans leur fausseté, dans leur fausse adoration, dans leur culte, dans leur exaltation de l'homme, du libre arbitre. Je mentionne souvent le libre arbitre parce que ça, c'est une idole qui existe dans la pensée de beaucoup, qu'ils peuvent choisir ou non. Non, nous sommes morts dans nos péchés. Quel cadavre qui peut faire quelque chose si ce n'est Christ qui intervient? Alors, faire attention à ceux qui prêchent le libre arbitre de l'homme. Ce sont des faux prédicateurs. Il n'y a qu'une seule volonté qui sauve, et ça, c'est la volonté de Dieu. Et heureusement, par sa grâce, il y a ceux qu'il a désignés pour le salut depuis l'éternité. Et c'est ceux-là qui l'ont reçu, qui ont reçu Christ, comme c'est écrit dans le verset 12, qui croient en son nom, véritablement. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il révèle Christ dans le cœur, ne dirige pas le pécheur dans l'erreur, mais il croit véritablement en son nom. Mais pourquoi il croit? Le verset 12 dit, elle, c'est-à-dire cette lumière, cette parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si aujourd'hui j'ai cette connaissance du Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas m'attribuer cette gloire. Ça appartient à Dieu seul parce que c'est lui qui m'a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Autrement, je serai parmi ceux qui sont condamnés. Donc à Dieu seul la gloire. Et c'est ce qui est décrit dans le verset 13. Lesquels sont nés? Cette nouvelle naissance, naître de nouveau, naître d'en haut. Non du sang. Cela veut dire, ce n'est pas par le fait que je viens des parents chrétiens ou bien d'un foyer chrétien. Cela n'est pas la manière de devenir chrétien. Et puis c'est écrit, ni de la volonté de la chair. Voilà ce que les gens disent, non, mais ce n'est pas notre volonté. Dieu attend ce que nous décidons. Non, ni de la volonté de la chair. Cette chair est pourrie. Cette chair ne peut jamais venir à Christ. Mais notez bien, ni de la volonté de l'homme. Vous voyez, il y en a qui disent, non, mais si nous joignons dans la prière et nous supplions Dieu ensemble, ou deux ou trois décident qu'ils sont d'accord, donc Dieu doit les sauver. Non, ni de la volonté de l'homme. Mais quoi? De Dieu. C'est simple. Le salut vient de Dieu. Et ceux-là que Dieu a destinés au salut, c'est ceux-là qu'il a sauvés par la venue du Seigneur Jésus dans le monde. Il est venu accomplir la justice de Dieu à leur égard. Et si je suis de ce nombre, donc cela veut dire que l'Esprit, au moment voulu, pas l'Esprit, mais à travers la prédication de l'Évangile. Il y en a qui m'accusent, ils disent, si vous croyez que c'est Dieu qui sauve et tout dépend de lui, alors pourquoi prêcher l'Évangile? Parce que Christ, la Bible dit que c'est à travers la prédication de l'Évangile que Dieu sauve, il attire à lui-même ceux pour qui Christ est mort. C'est par là que je peux savoir qui sont les véritables enfants de Dieu, parce que cette véritable lumière est révélée dans leur cœur. Je ne pouvais jamais savoir de moi-même. Je prêche à beaucoup, mais ceux sont sauvés pour qui Christ a versé son sang et pour qui Dieu le Père a choisi pour le salut et en qui l'Esprit de Dieu agit pour les attirer à lui. Alors voilà l'étude pour aujourd'hui. Et ma prière, c'est que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre. Prions. Seigneur, je te remercie dans ta grâce du fait que tu nous as donné cette occasion de nous rassembler autour de ta parole. Et nous savons que ce n'est pas seulement pour ceux qui sont présentement en train de voir, écouter ce message, mais même à travers les années, posté sur l'Internet, tu dirigeras à ce message exactement ce que tu as donné à ton fils et pour qu'il il est mort. Je suis vraiment reconnaissant que le salut vient de toi et que même si le monde parcourt son chemin à la condamnation, mais tu appelleras en ton temps à toi chacun pour qui Christ a payé cette dette. Et cela est notre rassurance, que si nous sommes à lui, toute la gloire revient à toi. Alors que ton nom soit béni et que tu donnes à chacun de nous en tant que prédicateur cette persuasion de ne connaître autre personne que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et pour cela, nous te remercions et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.